Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1831, Notre-Dame de Paris est un grand roman historique et romantique de Victor Hugo, situé dans le Paris de 1482. Souvent réduit au destin de Quasimodo et de la jeune Esmeralda, le livre déploie en réalité une vaste vision de la ville médiévale, de ses institutions, de ses foules et de son architecture. La cathédrale ne sert pas seulement de décor, elle organise les regards, les conflits et la mémoire collective, au point de devenir une présence centrale du récit. Hugo associe une intrigue tragique à une réflexion sur la justice, la marginalité, le désir, le pouvoir religieux et la destruction du patrimoine. Claude Frollo, archidiacre savant dominé par une passion destructrice, incarne la collision entre discipline morale et pulsion personnelle. Face aux préjugés, Quasimodo révèle une capacité de fidélité et de tendresse que la société refuse de voir. Par son ampleur descriptive et sa force dramatique, le roman défend aussi la valeur des monuments médiévaux menacés au temps de Hugo. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la cathédrale comme personnage, archive et enjeu de sauvegarde, Notre-Dame structure le roman bien davantage que ne le ferait un simple lieu d'action. Ses tours, ses cloches, ses galeries et ses espaces protégés déterminent les possibilités de rencontre, de surveillance, de refuge et de violence. Quasimodo appartient physiquement et affectivement à cet édifice, tandis que Frollo y exerce une autorité religieuse et intellectuelle. La cathédrale devient ainsi le point où se croisent les destins individuels et les forces collectives de Paris. Hugo lui confère aussi une fonction historique. Les pierres conservent les traces de générations, de croyances et de conflits, même lorsque les hommes oublient leur propre passé. Les longues évocations architecturales peuvent ralentir la progression de l'intrigue, mais elles expriment une idée essentielle du livre. Un monument est un langage transmis à travers les siècles et son altération efface une part de la mémoire commune. Hugo critique les mutilations, les transformations irréfléchies et la négligence qui ont atteint les édifices gothiques. Cette défense du patrimoine distingue fortement le roman historique de Hugo. Le passé ne constitue pas un exotisme pittoresque, mais un bien culturel vulnérable. La fiction rend donc sensible ce que le discours patrimonial seul peine parfois à montrer, soit la perte humaine, esthétique et civique, impliquée par la disparition des formes anciennes. Deuxièmement, Quasimodo et Esmeralda face à la fabrication sociale de la monstruosité. Le roman met en regard deux figures exposées au jugement collectif: Quasimodo, dont le corps déformé provoque la peur et la moquerie, et Esmeralda, jeune femme romanie réduite par beaucoup à des fantasmes de séduction, de sorcellerie ou de menace. Hugo montre que la marginalisation ne provient pas seulement des différences visibles. Elle résulte aussi des récits hostiles que la foule, les autorités et les institutions imposent aux individus. Quasimodo est humilié publiquement lors de son supplice, alors même que sa vulnérabilité et son attachement sincère restent invisibles aux spectateurs. Son évolution fait apparaître un contraste majeur entre apparence et vie morale. Esmeralda, pour sa part, subit une justice qui interprète son identité, ses gestes et ses relations selon des préjugés déjà établis. Sa bonté ne la protège ni du désir prédateur ni de la violence judiciaire. Le livre ne livre pas une vision moderne et sans ambiguïté des populations marginalisées, car il porte aussi les catégories et les imaginaires de son époque. Toutefois, sa puissance critique tient à la manière dont il révèle la cruauté des mécanismes d'exclusion. Les personnages réputés monstrueux ou suspects possèdent une profondeur morale, tandis que des figures respectables peuvent agir avec brutalité. Cette inversion oblige le lecteur à examiner les critères sociaux par lesquels une communauté désigne ses victimes. Troisièmement, Claude Frollo et la transformation du désir en pouvoir destructeur. Claude Frollo ne se réduit pas au rôle d'un antagoniste abstrait. Archidiacre érudit, responsable de Quasimodo et homme attaché au savoir, il représente initialement une forme de maîtrise intellectuelle et morale. Pourtant, son désir pour Esmeralda détruit progressivement cette maîtrise. Hugo analyse moins un amour contrarié qu'une obsession fondée sur la possession. Frollo ne reconnaît pas en Esmeralda une personne libre capable de refuser. Il traite son indépendance comme une offense et tente de soumettre la réalité à sa propre passion. Cette logique explique le passage de la fascination à la manipulation, puis à la persécution. Le personnage révèle un thème majeur du romantisme hugolien: la grandeur de l'esprit ne garantit pas la grandeur morale. L'érudition, la position religieuse et l'autorité sociale peuvent devenir des instruments de domination lorsqu'elles ne rencontrent ni empathie ni responsabilité. Le conflit intérieur de Frollo donne au roman sa dimension tragique, car il sait souvent que ses actes sont condamnables sans parvenir à renoncer à son désir. Sa chute contraste avec l'amour de Quasimodo, qui se manifeste surtout par la protection et le sacrifice, en opposant ces deux attachements. Hugo distingue radicalement la tendresse, qui accepte la liberté de l'autre, de la passion possessive, qui transforme autrui en objet et finit par produire la catastrophe. Quatrièmement, la justice médiévale comme spectacle de peur et instrument de condamnation dans Notre-Dame de Paris. La justice ne se présente pas comme une recherche impartiale de la vérité. Elle est liée aux hiérarchies sociales, aux superstitions, à la torture, aux procédures opaques et aux besoins collectifs de désigner un coupable. Le sort de Quasimodo puis celui de Esmeralda révèle une institution qui expose les corps pour maintenir l'ordre plutôt qu'elle ne protège les personnes. Le supplice public transforme la souffrance en divertissement ou en leçon de discipline. La foule peut manifester de la curiosité, de la dérision ou une compassion tardive, mais elle demeure instable et facilement orientée. Hugo ne décrit donc pas seulement des erreurs individuelles, il met en scène un système où la vulnérabilité sociale augmente donc le risque de condamnation. Esmeralda est particulièrement sans défense parce que son statut, son origine supposée et sa réputation alimentent des accusations prêtes à être crues. Le roman montre aussi que les passions privées de Frollo trouvent dans les mécanismes judiciaires un moyen d'agir avec une apparence de légitimité. Cette articulation entre désir personnel et pouvoir institutionnel rend la tragédie plus grave. La critique vise une société qui confond autorité et justice, confession et preuve, différence et culpabilité, malgré son cadre médiéval. Cette analyse garde une portée durable, elle interroge la facilité avec laquelle une communauté accepte la violence lorsqu'elle est administrée au nom de la loi. En dernier lieu, Paris de 1482 et le conflit entre la pierre, le livre et la mémoire, Hugo reconstruit Paris de 1482 comme un organisme dense, où la topographie urbaine, les corporations, les cérémonies, les rues et les foules participent pleinement au sens du récit. Cette ambition dépasse les exigences habituelles de l'intrigue. Les descriptions de la ville montrent comment un espace matériel traduit une organisation politique, religieuse et sociale. Le roman formule aussi une opposition célèbre entre la pierre et le livre. L'imprimerie, présentée comme une puissance appelée à modifier la circulation des idées, semble menacer le rôle des cathédrales comme support majeur de mémoire collective. Hugo ne condamne pas simplement le livre imprimé, il observe un changement de civilisation. L'architecture médiévale exprimait publiquement une vision du monde dans la pierre, tandis que l'écriture multiplie et déplace les lieux de transmission. Cette réflexion explique pourquoi la sauvegarde de Notre-Dame importe autant détruire ou défigurer le bâtiment revient à appauvrir un langage historique irremplaçable. Le livre articule ainsi deux temporalités. Il fait revivre un Paris disparu par les ressources du roman, tout en avertissant les lecteurs du XIXe siècle contre leur propre indifférence envers les traces du passé. Cette combinaison de documentation imaginaire, de méditation sur les médias et de plaidoyer patrimonial donne au roman une ambition intellectuelle inhabituelle dans le cadre du roman historique. En conclusion, Notre-Dame de Paris convient aux lecteurs qui recherchent un classique capable de réunir intrigue tragique, fresque historique, réflexion sociale et passion pour les formes artistiques. Il intéressera particulièrement les lecteurs de Victor Hugo, les amateurs de romans romantiques. Les personnes curieuses du Paris médiéval et celles qui souhaitent comprendre pourquoi la sauvegarde du patrimoine peut devenir un sujet littéraire majeur. La lecture demande de la disponibilité, car les descriptions architecturales, les détours historiques et les changements de perspective sont plus amples que dans une narration contemporaine. Ils constituent toutefois un bénéfice intellectuel réel. Ils apprennent à lire une ville comme un document, un monument comme une mémoire et une institution comme un rapport de force. Le roman permet aussi de réfléchir aux effets des préjugés, à la violence du jugement public et à la différence entre amour protecteur et désir de possession. Par rapport à de nombreux romans historiques, il se distingue par le statut central accordé à la cathédrale. Chez Hugo, le monument ne valide pas seulement le décor. Il oriente la structure, le symbolisme et la portée politique de l'œuvre. Par rapport au récit centré sur le mythe de la belle et de la bête. Il offre une vision plus sombre et plus complexe, où aucune innocence individuelle ne suffit à neutraliser la brutalité sociale. Sa force durable réside dans cette alliance entre émotions dramatiques, imaginaires gothiques et conscience historique. Si vous souhaitez soutenir Victor Hugo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.